Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, on va poursuivre notre déroulement à partir de la révélation de Dieu. Voilà, ce que je vous propose, c'est que peut-être dans cette première heure de cours, eh bien, si vous avez des questions, vous pouvez les noter. Et puis, après la pause, on pourra prendre un petit temps où je pourrai répondre à vos questions, de manière à ce qu'on puisse avoir un déroulé le plus fluide possible. Voilà. D'autant plus qu'effectivement, des participants risquent d'arriver au fur et à mesure. Donc, voilà. Voilà que tout le monde trouve sa place. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le Fils. Donc c'est l'envoyé, l'incarnation. Et Dieu envoya son Fils. Et donc on continue dans cette grande histoire de la révélation. Histoire qui est venue surgir dans l'histoire des hommes. Et précisément, on arrive avec ce moment particulier. Ah, ben je vais essayer, je vais me mettre debout. Oui, le problème c'est que tenir le micro, c'est fatigant.
Alors je vais prendre le micro.
Voilà, c'est mieux comme ça pour vous? Alors, dans l'économie de la révélation de Dieu, eh bien, il arrive un moment... Oui, il arrive un moment où Dieu décide de se révéler autrement que par sa parole. Et ça, c'est ce que nous avons vu sur les deux derniers cours. Et donc, on en arrive à ce moment très particulier où Dieu va s'extérioriser de lui-même par l'incarnation du Fils. Et donc, l'incarnation du Fils est précisément le moment où la révélation va s'accomplir par le Fils et en lui-même. Alors, on pourrait presque dire que la promesse de l'Ancien Testament vient s'accomplir en Jésus-Christ par la mission que le Père lui confie, mais qui s'inscrit toujours dans un plan de salut pour l'humanité. On n'a pas un plan différent pour la révélation dans l'Ancien Testament et un plan différent au moment de l'incarnation avec Jésus. On est bien dans le même dessein de Dieu, dans sa même volonté de se révéler, de se manifester en vue de sauver les hommes. Voyez. Alors après, les raisons même de cette incarnation, on peut l'expliquer par rétrospectivement, par le plan salut, comme je l'ai expliqué, comme vous le savez déjà. Mais on peut aller chercher, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller chercher comment les premiers pères de l'Église ont essayé d'identifier les raisons de cette incarnation. On ne va rien découvrir de vraiment nouveau, hein, de ce que vous savez, de ce que je vais pouvoir dire. Mais ça nous permet de voir comment, au fil des siècles, la compréhension de l'incarnation, de ce mouvement dynamique de Dieu pour son Fils vers les hommes, s'est accompli en son Fils, et comment cela a été compris et a été explicité par les pères de l'Église et par les premiers apologètes. Est-ce que ça va pour vous? Voilà. Vous m'entendez bien du coup, là, c'est mieux. Bon, c'est super. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les raisons de l'incarnation, j'ai parlé de mission, et j'ai parlé, peut-être pas de mission, j'ai parlé de salut, mais à ce salut, on peut ajouter précisément la mission que le Père confie au Fils, de mener à bien pour ainsi dire, en tout cas d'accomplir la promesse déjà annoncée et déjà en mouvement, hein, parce que le peuple hébreu a fait l'expérience que cette promesse, que Dieu tenait ses promesses, et dans l'alliance ancienne et dans le renouvellement de l'alliance, le peuple hébreu a fait l'expérience de la fidélité de Dieu. Mais en Jésus-Christ, avec l'incarnation du Fils, la mission va être confiée au Fils d'accomplir cette révélation totalement. Et donc, on a le prologue de Jean qui va resserrer un petit peu ces raisons de l'incarnation, le fait que le Verbe se fasse chair. Et donc, dans le texte numéro 1 que vous devez avoir, on a le prologue de Jean. Alors, on va le lire. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame : Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que avant moi, il était. Donc vous voyez, on a un texte de Jean. D'ailleurs, il commence par bien préciser que celui qui témoigne n'est pas celui qui est attendu. Voilà. Il y eut un homme envoyé de Dieu. On pourrait très bien penser que, en faisant un raccourci, en lisant vite, on se dit, c'est Jésus le Fils, c'est le Verbe. Non. Il y eut un homme envoyé de Dieu, mais envoyé pour précéder, pour préparer le chemin de Jésus. Voilà. Exact. Alors, pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, effectivement, on peut le considérer comme le dernier des prophètes. Là, on est sur l'évangéliste Jean, c'est-à-dire le bien-aimé, celui qui est souvent représenté posant la tête sur l'épaule. Voilà. Donc, l'évangéliste Jean nous dit des choses très importantes. Parce qu'il nous dit, d'abord, on peut voir qu'il est question, on nous dit tout au début, que le Verbe était Dieu. Voilà, donc là, il n'y a pas de confusion possible. Le Verbe était Dieu. Que le Verbe s'est fait chair. Donc celui qui s'est fait chair n'est pas un autre que Dieu lui-même, que celui qui s'est fait chair a habité parmi nous, que sa gloire vient de Dieu lui-même, et il s'agit donc du Fils unique, plein de grâce et de vérité. On a là, dans un récit qui se veut poétique, le retour à un commencement en vue d'expliciter l'accomplissement. Et donc, on a la réalité de la volonté de Dieu, de la volonté du Père. Donc je redis, la réalité de la volonté du Père qui s'incarne dans la réalité du Fils envoyé pour le salut des hommes. Ça veut dire que dans cette phrase, je vais la redire, la réalité de la volonté du Père incarnée dans la réalité du Fils envoyé pour le salut des hommes, on peut surligner ou souligner deux mots, deux verbes, enfin là, ils sont pas... Voilà, incarné et envoyé. L'incarnation est en vue de l'envoi et l'incarnation et l'envoi sont pour la mission. C'est ça qui relie ces deux mots. Le Fils est envoyé pour... Alors, j'allais dire en mission, mais vous voyez, quand le Fils est envoyé en mission, c'est un peu trivial, comme on voit bien que ce n'est pas la même dimension. Il est envoyé pour accomplir la mission de salut pour tous les hommes. Et donc le mot « verbe » renvoie précisément à cette mission de salut. Le verbe s'est fait chair en vue du salut de tous. Ce n'est pas simplement une volonté de faire connaître le Fils. Bien sûr, il y a la volonté de faire connaître, sauf que dans le Nouveau Testament, on est plus sur l'idée de reconnaître que celui qui est envoyé par le Père est bien le Fils de Dieu. Donc l'idée, ce n'est pas simplement de connaître Dieu comme dans l'Ancien Testament, mais c'est comment par le Fils, on va reconnaître Dieu par lui. Vous voyez, il y a quand même l'idée très forte qui court dans tout le Nouveau Testament, qui est la reconnaissance du Fils de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Et donc ce mystère-là va se dévoiler précisément dans l'incarnation du Fils. Donc on peut dire que l'incarnation est la condition du salut. Voilà. Le salut ne peut pas s'accomplir en dehors de l'incarnation du Fils. Et donc l'incarnation intègre l'économie, c'est-à-dire les moyens que Dieu se donne pour se révéler et se manifester. Et donc Jean débute son prologue par l'action divine qui est absolument fondatrice. Et il part bien du commencement, en vue de l'accomplissement. Et il nous montre le mouvement. Le mouvement, c'est que le Verbe, c'est Dieu, que Dieu devient chair, et qu'il a habité parmi nous. Et donc, s'il a habité parmi nous, alors nous le connaissons et nous devons être capables de le reconnaître. C'était tout l'enjeu des apôtres et des disciples que Jésus a choisis. Comment il aurait été possible de reconnaître en Jésus de Nazareth le Fils de Dieu? On a vu les enseignements, sa vie à Jésus, son œuvre, les miracles ont été des moments où effectivement il a pas simplement annoncé le royaume, parce qu'il était lui-même le royaume de Dieu, mais qu'il a fallu des signes pour qu'on le reconnaisse, et parfois les signes ne suffisaient pas. Et donc il a fallu malheureusement la mort sur la croix et la résurrection pour que les apôtres, mais ça vous savez tout ça, déjà j'ai pas besoin de vous le dire. Voilà. Ce qui est important dans le prologue de Jean, c'est que le terme de logos, ce terme grec qui veut dire parole, verbe, c'est un terme qui est chargé de toute la pensée grecque, et que la difficulté des premiers chrétiens et des premiers apologètes et des premiers pères de l'Église, ça était de voir comment on allait pouvoir se défaire de cette pensée grecque, et ça on l'a déjà vu, hein, déjà, et comment il va être possible de d'épurer ce vocabulaire pour qu'il intègre un lexique chrétien. Donc ça a été tout un travail très compliqué pour les apologètes, qui ont dû s'interroger sur la signification même du terme de logos pour le replacer dans la signification du verbe. Le verbe était Dieu, dans le terme de parole. Et pour se sortir de la pensée grecque, et particulièrement de la pensée de Platon, vous savez, la séparation entre l'âme et le corps chez Platon, où Platon disait, en fait, l'âme a pénétré la matière, et en la pénétrant, le corps, la matière, a contaminé l'âme. Eh bien, Jean va prendre le contre-pied. Alors, moi, je ne vais pas vous dire que Jean était conscient de ça, parce que ça, je ne pourrais pas vous dire ça, peut-être que lui-même, mais tous les exégètes, et je pense que Roselyne pourra très bien expliquer ça mieux que moi, puisque c'est vraiment son cadre de compétences. Mais Jean, peut-être par le travail de l'esprit qui a inspiré son écrit, il écrit au verset 9 que le logos est illumination, et il écrit « Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. » Et vous voyez la différence. Jean ne dit pas « Le logos pénètre le monde », comme l'âme platonicienne pénétrait la matière. Il dit « Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. » Donc le Verbe ne pénètre pas le monde, mais il vient dans le monde. Il vient parmi nous. Cela signifie que l'incarnation, quand son incarnation, le Fils uni au Père, n'est pas créé, voyez, mais qu'il est engendré. Il vient dans le monde. Il n'est pas créé, il n'est pas une nature créée par le Père, et c'est ce que nous confessons. Engendré, non pas créé. S'il avait pénétré la matière du monde, il aurait été créé. Mais ce n'est pas le cas. Et parce qu'il naît de Marie, il garde pleinement sa nature divine. Mais en sa nature humaine, le Fils, on peut comprendre cela de cette façon-là, le Fils est l'extériorisation du Père. Le Père s'extériorise en son Fils. On pourrait dire pour poursuivre l'action de l'Esprit en vue du salut, dans le monde et pour le monde. Alors on peut voir maintenant, premier point, comment on peut comprendre que le logos est un acte, le comprendre comme acte d'extériorisation. Donc j'ai dit que par l'incarnation, le logos entre dans le monde. Et qu'en entrant dans le monde, eh bien le logos va s'extérioriser dans les événements de l'histoire. De fait, lorsqu'on écrit Jésus-Christ, on met un trait d'union entre Jésus et Christ. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le Jésus de Nazareth, le Jésus d'histoire, que l'on confesse comme le Christ de la foi, et qu'on ne sépare pas le Jésus de l'histoire du Christ de la foi. Donc, le Fils incarné entre dans le monde. Et donc, il va entrer dans l'histoire du monde. Et cette histoire, il va la marquer. Il va marquer une rupture dans sa, non pas dans sa continuité, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un événement qui s'est produit avec son incarnation. Alors, comme je vous le disais, ce terme de logos, il a posé des difficultés dans les premiers temps de l'Église, parce qu'il renvoyait à la sagesse grecque. Et donc, pour se sortir de cette renière, eh bien, le verbe de logos a été ramené à Dieu qui parle, comme dans l'Ancien Testament. Et donc, si Dieu parle, c'est théos legon. Je vais l'écrire au tableau. C'est ça. Donc, théos legon, en grec, ça fait théos. Je ne sais pas si c'est comme ça. Ça doit être
état.
Mais c'est pas un sigma. Théos et légon. Voilà, avec un accent là. Théos légon. Donc c'est Dieu qui parle. Dieu parle. Et en ramenant sur la parole de Dieu, alors le logos grec s'est vu totalement évacué de cette compréhension-là. Là, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas une divinité.
Comment est-ce que vous appelez logos exactement?
Alors, pour Jean, vous posez la question pour Jean ou pour...
En règle générale, quand vous parlez du logos, je voudrais être sûre de ne pas me tromper dans la...
Mais quand on lit le prologue?
Oui, quand vous parlez du logos, thème chargé dans toute la pensée grecque, je voudrais être sûre de bien comprendre.
Dans la pensée grecque, le logos, c'était la parole, c'est-à-dire mais la parole dans le sens de l'idée, dans le sens de la pensée. C'était pas, il n'y avait pas de... Vous voyez bien, quand je dis idée-pensée, dans la pensée grecque, dans la sagesse grecque, ça pouvait être aussi l'argumentation. Alors que quand on dit Dieu parle, ou c'est Dieu qui parle, on change totalement de registre. Donc, le logos tel que l'utilise Jean dans son prologue, c'est vraiment le verbe, mais c'est le verbe pas avec un petit v. C'est le verbe avec un grand V, c'est-à-dire c'est l'incarnation même de la parole de Dieu. C'est son verbe, voilà, la dimension de possession. Son verbe s'est incarné, sa parole s'est incarnée. Donc on a vraiment l'idée qu'il y a une extériorisation de Dieu. D'abord, il s'extériorise par sa parole dans l'Ancien Testament, et que cette parole-là, elle va s'incarner, elle se fait chair. Et donc la dimension de chair vient précisément rompre avec la notion d'idée grecque, de pensée. Vous voyez ? La chair vient totalement réduire, mettre à néant cette idée de pensée. On n'est pas dans l'idée christique, voilà, l'idée d'une sagesse, d'un Christ. On n'est pas dans un Christ qui serait apparenté à Socrate. On n'est pas dans ça. C'est vraiment l'incarnation vient poser une extériorisation, c'est-à-dire une incarnation du Verbe.
Chair, ça signifie devenir un homme, enfin.
Oui, incarné. Voilà, incarné, une parole incarnée. Voilà, c'est ça. Mais vous voyez bien notre difficulté, c'est que précisément, ça on le sait, ça on le dit. Enfin, le Verbe s'est fait chair. Mais c'est tellement entré dans notre inconscient que quand on pose les choses de manière intellectuelle, quand on essaye de poser le concept et de l'intellectualiser, alors on est un petit peu perdu. Mais c'est ça qu'il faut vous dire. Comment on se sépare de l'idée christique d'un divin, c'était ça les Lumières, hein, l'idée christique d'un divin, et bien quand on se sépare de ça avec avec l'idée de chair et d'incarnation, alors on voit bien la différence, ce qu'est le logos chrétien. Donc ça a été vraiment une des difficultés que l'Église a résolues avec le théos légon. Et les premiers pères qui ont vraiment travaillé cette idée-là, c'est Origène. Je vous donne les dates, 185-253, ou 54, en fait on n'est jamais sûr des dates de mort, Origène, et puis Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée, c'est 265-339. Donc, ces deux pères de l'Église, ils ont assuré l'orthodoxie, c'est-à-dire que vraiment ce qui est orthodoxe, voilà, quels sont les termes à utiliser et à employer de manière à rompre radicalement avec toute mythologie, toute idée des termes, de manière à intégrer ces termes-là dans un lexique qui soit compris par les chrétiens, qu'il n'y ait pas de confusion possible. Donc lorsque le logos apparaît dans le monde, et il apparaît comme la manifestation et dans la manifestation du Fils, cette manifestation, elle est, il la reçoit dans la gloire du Père aussi. Ce n'est pas juste un processus d'incarnation qui serait en dehors de toute glorification. La mission du Fils est déjà en elle-même contenue dans cette glorification. Bien entendu, à la mort et à la résurrection du Christ, cette glorification sera pleine et entière. Il y a donc une volonté de Dieu en vue de l'accomplissement du salut. C'est pourquoi le Verbe de Dieu est associé, on ne peut pas le dissocier de l'idée d'accomplissement de la mission. Parce que c'est précisément en vue de l'accomplissement. Et que l'acte divin qui révèle le Fils comme étant le Fils de Dieu, eh bien, est dès l'origine auprès du Père. Voyez, notre difficulté serait d'envisager une révélation chronologique. Mais en fait, on sait bien, et on doit se le redire, que le Fils était dès le commencement auprès du Père. Et Jean nous le dit bien. Le Verbe était Dieu, donc le Verbe était Dieu, et à un moment donné, le Verbe s'est fait chair. Mais le Verbe se faisant chair n'est pas autre que le Verbe du départ, le Verbe du commencement. Donc il était dès le commencement. Alors les pères de l'Église ont expliqué ça en cherchant à... Ils vont envisager qu'il y a un échange entre le Fils et les hommes en vue de les sauver. Donc c'est ce qu'on appelle là, enfin, ce terme de sotériologie, un sauter, hein, celui qui sauve. Et donc Irénée de Lyon écrit donc, contre les gentils, hein, contre à l'époque, hein, puisque les gentils étaient précisément ceux qui ne croyaient pas, c'était les païens, il dit, c'est notre texte 2, « Telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme, et le Fils de Dieu, Fils de l'homme, c'est pour que l'homme, en se mélangeant au Verbe, et en recevant ainsi la filiation adoptive, devienne Fils de Dieu. » Vous voyez, c'était en vue d'un échange. C'est-à-dire que l'échange et la coïncidence parfaite entre le Père et le Fils ne les concernent pas que tous les deux, puisque c'est en vue du salut des hommes. Et donc cet échange du Père et du Fils, il est aussi proposé en vue d'un échange, mais d'un échange adoptif, puisqu'il ne s'agit pas d'une filiation de chair et d'esprit, avec l'homme et d'une filiation adoptive. C'est ce que nous dit Vatican II, hein, dans Dei Verbum. Donc une filiation adoptive pour que les hommes deviennent à leur tour fils de Dieu. Et il continue, je continue à citer Irénée, « Le Verbe de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, à cause de son surabondant amour, s'est fait cela même que nous sommes, il s'est fait cela même que nous sommes, c'est-à-dire il s'est fait ce que nous sommes, donc dans notre nature humaine, afin de faire de nous cela même qu'il est. » Vous voyez ? C'est-à-dire de nous intégrer, de nous, comment dire, Dei Verbum le dit très bien, pour que nous soyons rendus participants de sa nature divine, c'est ce que nous dit Dei Verbum. Que nous soyons participants de sa nature divine. Nous gardons notre nature humaine, mais son incarnation, l'incarnation du Verbe, l'incarnation du Fils, nous entraîne dans une filiation adoptive pour que nous soyons rendus participants. Donc la condition de salut passe par l'incarnation, et va mettre en œuvre cet échange. Vous voyez les conséquences de l'incarnation. Ce n'est pas simplement la manifestation de Dieu à un moment donné. C'est-à-dire que l'échange, il a à voir aujourd'hui même. cet échange-là. Ça ne s'est pas figé au 2e, 3e siècle avec les pères de l'Église ou avec les conciles œcuméniques qui se sont succédés et qui ont réaffirmé les règles de foi. Ça nous dit aussi aujourd'hui comment nous-mêmes aujourd'hui nous sommes rendus participants de cette nature divine, en raison même que, à un moment donné, dans le mystère de la volonté de Dieu, du Père, il s'est extériorisé en son Fils Jésus-Christ. Et comment cette mission qu'il a remis enfin dans les mains du Fils, ben, à un moment donné, il les a remis dans les mains des apôtres à la Pentecôte, et que nous-mêmes aujourd'hui, nous possédons cette et nous sommes aussi dans l'Église avec elle, garante de cette mission. Donc le mouvement économique de la révélation, même s'il est totalement accompli en Jésus-Christ, il demeure quand même en chacune et chacun d'entre nous un mouvement de révélation pour les autres. Et nous en sommes témoins, nous pouvons en témoigner de différentes façons. Donc l'intentionnalité divine, pour en revenir à cette intentionnalité-là, eh bien c'est le salut pour le Christ. C'est ça l'intention du Père et l'intention de Dieu. C'est pour ça qu'il est nécessaire de comprendre la personne du Christ, hein, comme deuxième personne de la Trinité, à partir de son œuvre, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Ce n'est pas simplement à partir de son incarnation, mais les conséquences que son incarnation a eues sur le contexte historique dans lequel vivait Jésus. Voilà, ça a déjà eu des conséquences. Comment des Juifs ont décidé de tout quitter pour le suivre lui. Voilà, ça déjà, c'est quelque chose on pourrait dire d'incompréhensible, mais que l'on pouvons comprendre nous maintenant, à la fois intellectuellement et à la fois par notre foi. Donc l'idée centrale, c'est vraiment de dire que l'incarnation constitue même la personne du Christ, et que sa personne du Christ est constituée par la mission. C'est pour ça, c'est sa mission, c'est la raison d'être de l'incarnation. C'est d'accomplir sa mission, et l'accomplissement de la mission, c'est précisément le salut de tous. Mais ça, bon, vous voyez, c'est dit autrement peut-être. Donc la constitution du Christ est relative à sa mission. Alors bien sûr, l'événement de son incarnation va s'accomplir, comme je vous le disais, dans l'événement pascal. Voilà, c'est le moment crucial où on est face à une rupture totale, invraisemblable. C'est sûr que dans l'histoire chronologique, ça crée un hiatus, une rupture totale. Ce qui était avant ne sera plus de la même façon qu'après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a marqué le temps de l'homme. Alors, qu'est-ce que j'avais noté à propos d'Irénée ? Alors, je crois que ça, c'est une phrase d'Irénée, j'ai mis des guillemets. Alors, pour Irénée, la foi chrétienne, donc la raison pour laquelle le Fils de Dieu est aussi Fils d'homme, c'est pour que l'homme devienne Fils de Dieu par un échange que l'on peut qualifier de salutaire. Donc ça, on voit bien qu'il y a une relation en vue du salut. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, on n'oublie pas. Hein. Donc Dieu est entré en dialogue avec les hommes. Mais si on dit que être fils d'homme ou fils de l'homme pour le Fils de Dieu, eh bien, ça ne diminue pas, ça ne diminue en rien sa nature divine. Le Fils s'est incarné, mais ça n'a pas, eu des conséquences sur sa nature divine. C'est-à-dire qu'il est pleinement homme et il demeure pleinement fils de Dieu. Pour les pères de l'Église, eh bien, et ça c'est Grégoire de Nazianze, vous voulez que je l'écrive ?
Oui.
Alors, Grégoire de Nazianze, 339, je ne sais plus quelle est sa date de mort, 390. Alors, Grégoire de Nazianze, il a été aussi secrétaire au Concile de Nicée. Concile de Nicée en 325. Eh bien, Grégoire de Nazianze dit « La constitution du Christ comme vraiment homme et pleinement homme... » Non, je dis des bêtises. « La constitution du Christ comme vraiment Dieu et pleinement homme, ce qui est quand même différent, apparaît comme une condition nécessaire du salut de l'homme. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé de nécessité. Est-ce qu'il y avait en Dieu du nécessaire ? Voilà. Il n'y a pas de nécessité en Dieu. Mais là, Grégoire de Nazianze, il nous dit quelque chose qui nous intéresse, nous. Parce que, du coup, lui, il parle de condition nécessaire. Ça veut donc dire qu'il y avait une condition nécessaire au salut par la personne du Christ. Donc la condition nécessaire du salut passe par l'incarnation. Alors justement, le Fils de Dieu fait homme. Je regarde l'heure. L'œuvre de Jésus ne peut pas être séparé de ce qu'il est, et il ne peut pas être séparé de sa personne. Ce qu'il fait, les œuvres qu'il fait, y compris les miracles, ne sont pas extérieures à sa mission. Voilà, c'est pas un thaumaturge qui va guérir par des incantations ou je ne sais quelle autre parole divinatoire. Donc, ce qu'il fait correspond à ce qu'il est. Et ce qu'il peut faire est possible parce que, précisément, il est pleinement le Fils de Dieu. Il est pleinement de nature divine. Donc, sa nature humaine et sa nature divine ne peuvent pas être séparées. Et elles ne peuvent pas être mélangées. Voilà. Il faut bien penser la distinction. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et ça a été tout l'enjeu du concile de Chalcédoine en 451. D'affirmer la double nature du Christ. Et donc là, il était question de contrer une hérésie qui était l'hérésie d'Eutychès, ou de Eutychès, enfin ça dépend comment. Cette hérésie-là. Alors, il faut vous dire que dans l'histoire de l'Église, et l'Église a pu affirmer les règles de foi, en tout cas, affirmer sa foi, on pourrait dire. Alors, je ne sais pas si on peut dire grâce, mais en tout cas, les hérésies qui naissent à l'intérieur de l'Église, les questions qui se posent à l'intérieur de l'Église, ça a d'abord été Arius en 325, c'était pas à l'extérieur de l'Église, mais les questions se posaient à l'intérieur de l'Église. Eh bien, cela a amené l'Église à affirmer, c'est-à-dire à réfléchir, à poser une réflexion sur elle-même, sur l'objet de sa foi, sur l'objet de ce en quoi elle croit. Et faisant cela, elle a mis en œuvre l'affirmation, les affirmations de la foi pour pouvoir les fixer et pour que l'on ne revienne pas dessus. Donc ça, c'est important de voir comment les conciles, en répondant aux hérésies, ont aussi mis en œuvre, ont constitué la foi et les règles de foi, en tout cas les affirmations de la foi de l'Église, garantissant un dépôt de la foi qui ne peut pas varier, qui n'est pas variable, qui est fixé. Et donc, au concile de Chalcédoine, la question s'était posée de savoir si le Fils était de même nature que le Père. Voilà. Eh bien, et de dire qu'il y avait une personne en deux natures. Alors, est-ce que le Fils est de même nature que le Père? Ça, c'était en 325, hein, concile de Nicée. Donc, c'est là où il a été affirmé que le Fils était de même nature que le Père et qu'il était consubstantiel au Père. Hein, ça, c'est ce que nous dit le concile de Nicée. Ensuite, on a eu le concile de Chalcédoine en 380, mais bon, le concile de Constantinople en 380 qui a réaffirmé cela. Et là, on a bien l'idée d'affirmer qu'une des personnes de la Trinité, que le Fils, possède deux natures. Une personne, deux natures. Et donc là, il a fallu affirmer, en tout cas déterminer, de quelle manière ces deux natures étaient, non pas en lien, mais comment on pouvait positionner la nature du Christ, nature humaine et nature divine. Et donc le concile de Chalcédoine a donc affirmé que ces deux natures sont sans confusion ni changement, elles ne se confondent pas, elles ne changent pas, et qu'elles ne se divisent pas, et qu'elles ne se séparent pas. Donc sans confusion ni changement, sans division ni séparation. Donc il y a là l'affirmation de l'union de l'humain et du divin en une seule personne, une personne de nature. Donc tout l'enjeu de Chalcédoine était d'affirmer l'identité humaine et divine du Christ, en ramenant les réalités humaines du Fils, donc les réalités humaines assumées par le Fils, par le Christ, donc Fils de Dieu, et les réalités divines accomplies en lui. Vous voyez la différence? On a à la fois des réalités humaines assumées par le Fils et des réalités divines accomplies en lui. Donc on est vraiment là dont l'objectif de tout cela, c'est précisément l'accomplissement. L'accomplissement de la révélation dans l'histoire ne peut pas se faire en dehors du Christ, en tout cas ne peut pas se faire. La volonté, dans le mystère de la volonté de Dieu, elle s'est faite par le Fils en son incarnation. Donc, la mission doit s'accomplir en lui-même. Mais s'accomplissant, il n'y a pas l'action du Fils en raison même de son action humaine qui serait séparée de son action en tant que Fils de Dieu. Il y a vraiment une union des deux natures, mais elles ne se confondent pas. Ce que Jésus peut dire, par exemple, dans son enseignement, il le dit en raison même de sa nature humaine, parce qu'il a le langage de l'homme et qu'il assume pleinement sa nature humaine, jusqu'à mourir sur la croix. Mais lorsqu'il fait des miracles, lorsqu'il soigne les corps et les esprits, il le fait en raison même de sa nature divine. Lorsqu'il ressuscite Lazare, il le ressuscite en raison même de sa nature divine. Alors peut-être de sa volonté d'homme, parce qu'il aime Lazare et qu'il pleure sa mort, de sa volonté d'homme, mais cette volonté d'homme, elle est mise en œuvre pleinement et totalement par sa nature divine, par l'action même de l'Esprit Saint et de l'Esprit qui est commun entre le Père et le Fils, leur Esprit commun qui est en action. L'Esprit Saint, c'est la personne, c'est le sujet de l'action, c'est la personne de l'action.
Est-ce qu'on peut dire que l'Esprit Saint, justement, assure l'intermédiation entre le Père et le Fils, qui assure l'intermédiation entre le Père et le Fils, est-ce qu'on peut dire qu'entre les deux natures, il joue un rôle d'harmonisation, enfin, comment est-ce qu'on peut...
Alors, on ne peut pas dire ça, parce qu'en Trinité, on ne va pas parler d'intermédiation, parce qu'il n'y en a pas, on va parler de procession.
D'accord.
Voilà, on va parler de procession, parce que si on disait d'intermédiation, ça voudrait dire qu'il y a le Père, le Fils, et puis qu'il y a un esprit qui viendrait arbitrer ou régenter, voilà. Donc voilà, on va parler de procession. Voilà. Parce que l'esprit dans la Trinité, l'esprit du Père et du Fils, c'est un esprit qui leur est commun. Il y a du commun et en même temps, il y a du caractéristique. Mais bon, ça c'est... Je ne sais pas si on a un cours sur la Trinité. Enfin voilà, bon, pour répondre très vite à votre question, voilà, on pourra peut-être... Alors, la formule de Calcédoine, je vous l'ai mise... je ne sais plus si c'est le texte 3 ou pas.
Texte 3.
Voilà, on peut la lire, hein, parce que cette formule-là, elle dit bien. Enfin, et puis elle nous dit la manière dont l'Église a mis, a posé les choses, enfin, a affirmé cette personne, les deux natures du Christ. La définition de Calcédoine, la voilà, entre guillemets. Suivons donc les saints-pères. Suivant donc les saints-pères, nous enseignons tous unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, d'une âme raisonnable et d'un corps consubstantiel au Père selon la divinité, et le même, consubstantiel à nous, selon l'humanité. Et en tout ensemble, en tout semblable à nous, sauf le péché, avant les siècles, engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour, le même, donc entre parenthèses, engendré pour nous et notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité, un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. La différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase. Un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné, et que le symbole des pères nous l'a transmis. Donc vous voyez, on peut très bien surligner le même parfait en divinité, toujours le même quoi, le même en divinité, le même en humanité, le même consubstantiel au Père en sa divinité et consubstantiel à nous en son humanité, selon l'humanité, consubstantiel à nous selon l'humanité. Le selon, il est très important. Hypostase, ça veut dire, c'est la personne en grec, hypostasis. Donc le Concile de Chalcédoine a précisément affirmé, je reprends un peu ma page, cette règle, enfin je ne sais pas si on peut dire règle de foi, mais en tout cas a affirmé contre les hérétiques qu'une personne de la Trinité avait une double nature. Et donc ça c'est important parce que la double nature du Fils va précisément ensuite pour la théologie de la Trinité nous faire comprendre que la Trinité, elle se comprend par l'incarnation du Fils. Si on enlève la question de l'incarnation du Fils dans la Trinité, alors on ne comprend plus la Trinité. C'est parce qu'une des personnes de la Trinité est incarnée et possède cette double divinité que l'on peut comprendre la procession du Père, du Fils et de l'Esprit. Voilà. Et donc la constitution dogmatique des veri verbum nous dit la même chose, mais sous des, par rapport au Concile de Chalcédoine, mais sous des termes un peu différent, avec une articulation un peu différente. Donc c'est le texte 4. Jésus-Christ donc, le Verbe fait chair, homme envoyé aux hommes, prononce les paroles de Dieu et achève l'œuvre de salut que le Père lui a donné à faire. C'est donc lui, le voir, c'est voir le Père, qui par toute sa présence et par la manifestation qu'il fait de lui-même, par ses paroles et ses œuvres, par ses signes et ses miracles, et plus particulièrement par sa mort et sa résurrection glorieuse d'entre les morts, par l'envoi enfin de l'Esprit de vérité, achève en l'accomplissant la révélation et la confirme encore en attestant divinement que Dieu lui-même est avec nous, je rejoins mon texte, nous arrachant, est avec nous, il me manque un mot, pour nous arracher, merci beaucoup, pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle. Donc, vous voyez, là, la présentation, parce qu'on ne peut pas parler de définition, de Dei Verbum, c'est de dire, le Verbe fait chair, homme envoyé aux hommes. Donc là, détermination de sa nature humaine. Quand Dei Verbum nous dit homme envoyé aux hommes, c'est bien pour nous signifier que Jésus n'a pas fait semblant d'être un homme, qu'il a bien été homme envoyé aux hommes et que sa nature humaine, il l'assume pleinement, totalement. Ensuite, l'autre manière de Dei Verbum de dire les choses pour la nature divine, c'est donc lui, et là, dans les tirets, donc Jean 14, 9, le voir, c'est voir le Père. Donc on a bien l'affirmation qu'il est bien de nature divine, puisque voir Jésus, c'est voir le Père, et Jésus le dit lui-même, qui m'a vu, a vu le Père. Donc il y a bien une union intime entre la nature divine et la nature humaine qui a fait dire à Chalcédoine qu'on ne peut pas séparer. Il ne peut pas y avoir de séparation comme il ne peut pas y avoir de confusion. De la même façon, ce qui est du Père ou ce qui est du Fils ne peut pas changer, c'est immuable. Alors, dans cette union de cette double nature, ça ne signifie pas non plus, c'est fatigant de tenir le micro, ça ne signifie pas, dans cette double nature humaine et divine, il ne faudrait pas imaginer qu'en Jésus, il y aurait une synthèse de nature. Non, il n'y a pas de synthèse, ça aussi c'est un risque, ça pourrait être un écueil, on pourrait se dire, bah, finalement, il y a une synthèse des deux. Non, il ne peut pas y avoir de synthèse. Et pourquoi il ne peut pas y avoir de synthèse? Précisément parce que Jésus, fils de Dieu, vraiment homme et vraiment Dieu, en raison même de l'incarnation et de ce qui constitue cette incarnation, et ce qui constitue l'incarnation, je vous ai dit, c'est la mission, et bien précisément parce qu'il y a la mission, alors le Fils est celui par qui on va être sauvé. Donc quand je dis celui par qui on va être sauvé, le Fils, c'est l'être même par qui la médiation peut se faire. Jésus-Christ est la figure par excellence de la médiation. Notre religion chrétienne est une religion de la médiation. Jésus lui-même l'a dit encore une fois, nul ne va vers le Père sans passer par moi. Vous vous souvenez, la fois dernière, quand on a travaillé les égoïmies dans l'évangile de Jean, je suis le chemin, je suis la vérité, la vie, je suis la résurrection, je suis la vraie lumière, je suis la vraie vigne, etc. Voilà, il est le chemin. On peut pas, on n'a pas de prise directe avec le Père. Voilà. Sinon, si on avait cette prise directe avec Dieu, eh bien, il y aurait autant de Dieu que nous sommes de personnes ici dans cette pièce, parce que chacun se fabriquerait son Dieu à lui. Donc Jésus-Christ est vraiment le médiateur du Père. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause ou pas?
Oui.
vous qui avez...
Bon, ça va. Bon, ça va, c'est vous qui dites. C'est vous qui dites. Il est 3 heures. Il faut que je finisse mon cours, mais... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je regarde quel est le point après. Bon, alors, ce que je peux faire, c'est continuer mon point sur Jésus-Christ, fils médiateur, puisque je viens d'en parler, puis on fait la pause après. Voilà, comme ça je finis mon point. C'est le point 2.1. Jésus-Christ, fils et médiateur du Père. Et puis après, ben, on fait la pause et puis on prend un petit temps pour les questions. Donc cette médiation qui est voulue par le Père s'origine dans l'acte d'extériorisation de l'incarnation. Et donc l'acte d'incarnation, c'est la manifestation du Père. Donc ça, je répète peut-être un petit peu. Et cet acte, cette médiation par le Fils va révéler que le Père est bon, voilà, et qu'il est le souverain bien. C'est pas simplement parce que c'est pas un caprice de la part de Dieu. C'est cela qu'on doit voir aussi. Les raisons de Dieu sont aussi des raisons d'amour. Et que dans la Trinité, dans la procession du Père, du Fils et de l'Esprit, il y a une surabondance d'amour. Et donc on doit aussi voir cette extériorisation du Père dans l'incarnation du Fils comme un acte d'amour, comme quelque chose de très bon, comme à la création, et Dieu vit que cela était bon, comme un souverain bien qui va susciter l'amour. Donc on voit bien, quand on dit susciter l'amour, ça veut dire qu'il y a dans ce mouvement d'incarnation, dans la reconnaissance du Fils comme étant le Fils de Dieu, on est aussi entraîné dans cette surabondance d'amour. Ça suscite aussi en nous l'amour pour le Fils. Donc Dieu le Père va attirer à lui tous les hommes par la médiation du Fils et par cette œuvre d'incarnation. Et ça, ces termes-là, œuvre d'incarnation, eh bien saint Thomas d'Aquin les a prononcés bien avant, et c'est notre texte 5. L'œuvre de l'incarnation provient de l'immense amour de Dieu, selon saint Paul. Dieu, dans la richesse de sa miséricorde, est poussé par le grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a rendu la vie avec le Christ. Mais l'amour se porte sans retard au secours de l'ami dans le besoin. Il est écrit en effet: ne dis pas à ton ami, va-t'en, repasse, je te donnerai demain, quand tu peux donner sur l'heure. Il semble donc que Dieu ne devait pas retarder l'œuvre de l'incarnation, mais venir dès le début au secours du genre humain par l'incarnation. Donc le fait que Jésus assume notre humanité, il ne l'assume pas seulement par obéissance au Père, avec peut-être une compréhension tout à fait moindre de ce qu'est l'obéissance, mais il le fait d'abord par cet amour qui procède du Père et du Fils et de l'Esprit, par cet amour, par cette surabondance d'amour. Donc ça, on doit vraiment garder cela comme quelque chose qui est de... Enfin, la volonté du Père se met en œuvre dans une économie en raison même de l'amour qu'il a pour les créatures qu'il a créées. Et donc c'est pour cela que le Père va extérioriser sa divinité par amour en son Fils. C'est en son Fils. Donc le Fils est plein, enfin si vous me pardonnez cette expression-là, est plein de l'amour du Père. Et donc cet amour de Dieu qui s'incarne doit consolider en l'homme un amour inconnu pour lui jusque-là. La manière dont l'homme connaît l'amour est un amour bien en deçà de ce qu'est l'amour de Dieu pour l'homme. Donc là aussi, c'est une rupture. L'homme va découvrir une manière d'aimer qu'il ne connaissait pas avant. C'est comme si son enseignement met l'homme à l'école de Dieu. Alors, c'est pas moi qui le dis, ça, mais j'ai mis des guillemets, mais j'ai pas mis qui. Donc, faites jamais ça. Quand vous citez quelqu'un, vous mettez bien les références, mais je vous le dis, j'ai mis des guillemets, donc c'est pas moi qui le dis. Donc son enseignement met l'homme à l'école de Dieu. Voilà. Alors, pour rejoindre l'idée, j'essaye de résumer mon petit paragraphe, là, pour essayer de rejoindre l'idée d'élection, vous savez, qui est un terme éminemment théologique dans l'Ancien Testament, et puis Jésus aussi dans le Nouveau Testament, il commence par choisir des disciples, eh bien, on a aussi l'idée que dans cette médiation qu'est le Fils, et dans cette mission qu'il va confier, qu'il va remettre dans les mains, pour ainsi dire, dans les mains des apôtres, il y a aussi l'idée que nous avons été élus, qu'il y a quelque chose, on va intégrer cette notion d'élection pour entrer dans l'existence de Dieu aussi, pour goûter à cette existence de Dieu. Voilà, c'est une existence en Dieu qui doit nous aider à comprendre ce qu'est le Fils de Dieu et ce qu'est la mission. Alors, bon. Il y a bien entendu, quand je dis ce qu'est la mission, c'est d'abord la mission, moi je la comprends, dans l'Église, la mission d'abord de l'Église. Voilà, avec ce trépied qui est l'Écriture, l'Église et les sacrements. Donc il y a vraiment, c'est-à-dire l'Église est la mission par excellence et le lieu même de son discours. Elle a ça de particulier, l'Église. Alors, pour comprendre l'incarnation, il nous faut donc, et ça vous l'avez compris parce que je l'ai répété plusieurs fois, il faut repartir du Christ. Et c'est à partir du Christ qu'on peut faire une christologie, et y compris une théologie trinitaire. Et donc celui qui nous donne à comprendre cela et qui nous amène à parler de l'abaissement de Dieu à la croix et de l'abaissement du Fils, eh bien c'est précisément un théologien allemand, protestant que vous connaissez, qui s'appelle Karl Barth. Alors, Karl Barth. Karl Barth, 1886-1968. Est-ce qu'il est mort? Oui, c'est ça, 68. Voilà. 68. Donc Karl Barth est un théologien allemand, contemporain de Karl Rahner et de Balthasar. Balthasar dira de lui que c'est le protestant le plus catholique de tous les protestants. que Karl Barth s'est posé la question à un moment, mais non, il est resté fidèle au protestantisme. Mais on ne peut pas faire de la théologie sans lire Karl Barth. Et donc ça, c'est notre texte numéro 6. Voilà ce que nous dit Karl Barth, la grande théologie avec Karl Barth, dans sa dogmatique, qui est une œuvre monumentale. Que Dieu, en tant que Dieu, précisément, soit capable de s'abaisser aussi lui-même, qu'il soit disposé à le faire de bon gré, tel est, sous cette forme concrète souvent méconnue, le mystère de la divinité du Christ. La divinité du Christ n'est nullement celle d'un être divin doté de n'importe quel attribut suprême. On a rendu inutilement difficile, ou parfois trop facile, cette proposition christologique essentielle en la condamnant souvent à rester stérile, parce qu'on est passé à côté de la signification concrète, c'est-à-dire parce qu'on a négligé de chercher le contenu de la notion de divinité dans le Nouveau Testament, étroitement lié à l'Ancien, et par conséquent en Jésus-Christ lui-même. Pour définir la divinité de Jésus-Christ, on n'a pas le droit de recourir à l'idée générale d'un être suprême absolu, sans rapport avec le monde. Non. Il s'agit simplement de se mettre à l'école du Christ et de fixer son attention sur ce qui s'est passé en lui. Autrement, le mystère que constitue sa divinité serait un mystère arbitrairement conçu, imaginaire, inauthentique. Il ne serait justement pas le mystère que nous présente la parole et la révélation de Dieu, telles qu'elles sont attestées par la Bible. Pour savoir qui est le vrai Dieu et ce qu'il est, c'est-à-dire quelle est la nature divine qui est aussi celle de Jésus-Christ, s'il est vrai Dieu, nous n'avons qu'une seule possibilité, partir du fait que Jésus-Christ est également vrai homme et qu'il participe ainsi de la nature humaine. Autrement dit, nous avons à déduire sa divinité de son humanité, de son incarnation, de ce qu'il a souffert dans la chair en tant qu'homme. Car, disons-le carrément, le miroir dans lequel on peut reconnaître et où l'on reconnaît en fait qu'il est Dieu et d'essence divine, c'est son incarnation, son existence dans la chair. Vous voyez tout ce que je vous ai dit, finalement, Karl Barth, enfin, il le dit tellement mieux que moi. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il peut résumer, tout le cours est résumé dans ce passage-là. Voilà, que moi j'ai délayé tant bien que mal. Voilà, on peut souligner des choses, là, vraiment, que vous pourrez relire. Quand il met au milieu de son texte, on a négligé de chercher le contenu de la notion de divinité dans le Nouveau Testament, qui est étroitement lié, étroitement lié à l'Ancien. Donc Karl Barth, il est en train de nous rappeler à l'ordre. On ne sépare pas l'Ancien du Nouveau Testament. Voilà. Et si on ne cherche que les raisons de l'incarnation dans le Nouveau Testament, alors on ignore tout un pan de la révélation dans l'Ancien Testament. Les deux sont liés. Et ça, vous l'avez compris. Il dit, si l'on fait ça, alors on ne comprend pas qui est Jésus-Christ. Et par conséquent, eh bien, on perd le contenu de notion de divinité en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ? Il nous dit, nous avons à déduire sa divinité de son humanité, voilà, de son incarnation. À la limite, c'est parce qu'il s'est fait homme qu'il est Dieu. Seul Dieu peut décider de s'incarner, vous voyez ? Parce qu'il s'est fait homme, alors nous devons voir qu'il est aussi Dieu. Je ne sais pas si vous voyez bien là, peut-être un peu, voilà, c'est ça un peu l'idée. Ça veut dire que dans son existence de chair à Jésus-Christ, il ne lui manque rien de sa divinité, que sa nature humaine ne vient pas rompre, anéantir, amoindrir sa divinité. Il demeure pleinement le divin, dans sa constitution humaine, voilà, et dans sa constitution divine. Et c'est parce que l'une nature ne va pas diminuer l'autre et vice-versa, ou l'une augmenter l'autre et vice-versa, que la médiation est possible. Sinon, il ne pourrait pas être le médiateur du Père, le Fils de Dieu médiateur du Père. Ça ne pourrait pas marcher. Ça ne pourrait pas fonctionner. Et sa médiation, elle est totale, et surtout, l'action du Fils pour les hommes, elle va être efficace. Sa parole va être efficace. Et elle, non seulement elle va être efficace, mais ses disciples et ceux qui suivent Jésus, dans son contexte historique, quand Jésus enseigne, guérit, etc., et que les foules le suivent et qu'ils le voient faire, mais la parole de Jésus, elle est aussi efficace, alors même que lui-même n'a pas de geste de miracle. Souvenez-vous, la femme hémorroïse. Si j'arrive simplement à toucher les franges de son manteau, je serai sauvée. Combien de fois dans l'évangile on peut lire que Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvée ». Donc la médiation de Jésus-Christ en sa personne même est efficace pour ceux qui croient en son amour et en l'efficacité de sa parole. Ça, c'est... Je ne sais pas de mots, enfin, c'est insensé, enfin, je veux dire, c'est... Voilà, ça doit être quelque chose qui vient déterminer même le fait de comprendre comment sa médiation, elle est pleine, elle est totale, et elle est efficace en raison même que les deux natures dans le Christ demeurent pleines et entières. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais, pour finir, un petit peu. Alors, pour finir, j'ai noté quand même que si Jésus assume l'humanité, s'il assume sa nature humaine, il assume, enfin, il faut que je sois prudente dans mes mots, il assume la nature humaine blessée, puisque cette nature humaine est blessée, mais il ne va pas assumer la faute de la nature humaine. Hein ? Voilà, c'est-à-dire, il assume pleinement la nature humaine, sauf le péché, sauf la faute. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il n'y a pas en Jésus d'inclination au péché. Vous voyez, en l'homme, en sa nature humaine, on pourrait avoir une inclination au péché dans la liberté dans laquelle Dieu nous a créés. Il nous a créés libres de choisir le bien et le mal. Bon. Donc on peut avoir une inclination, des fois une inclination à prendre les mauvaises décisions. On a ça aussi, on fait tous cette expérience-là, mais on s'en rend compte après. Jésus assume sa nature humaine pleinement, hormis la nature blessée, la faute. Dès lors, lorsque le tentateur, lorsque Jésus est tenté par Satan, la tentation, elle vient de l'extérieur. Elle ne vient pas de lui-même. Vous voyez ? Il n'y a pas en Jésus d'inclination au péché. La tentation est de l'extérieur. Alors que dans notre nature humaine, on pourrait avoir des inclinations voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc là aussi, le fait qu'il n'y ait pas en Jésus, Fils de Dieu, d'inclination au péché, eh bien, fait aussi l'efficacité de la médiation de sa personne pour le salut. Et donc, du coup, Jésus, en théologie, on pourrait comprendre, et ça c'est Balthazar qui l'a beaucoup travaillé, la question de la figure de médiation. Mais ça, on pourra voir ça tout à l'heure. Voilà. Bon, on peut faire une pause. Je vais arrêter le micro, je vais arrêter le...